France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire du film Underground d'Emir Kusturica, Palme d'Or au Festival de Cannes en 1995. Quels sont les ingrédients d'une bonne polémique? Eh bien, prenez un contexte explosif. La guerre en ex-Yougoslavie, en l'occurrence. Ajoutez un cinéaste qui n'a pas sa langue dans sa poche, Kusturica. Offrez-lui une deuxième Palme d'Or, après sa première récompense en 1985. Mélangez le tout avec des tribunes d'Alain Finkielkraut et Bernard-Henri Lévy dans les colonnes de la presse française et vous obtenez quasi instantanément un débat virulent. Kusturica est-il un génie du cinéma ou un propagandiste de Milosevic? Autrement dit, cinéaste fasciste ou artiste incompris? Bref, la polémique enfle avant la sortie de son film en salle en octobre 1995 au point de dégoûter Kusturica du cinéma. Notre invité aujourd'hui, Laurent Delmas, critique de cinéma et coproducteur de l'émission On aura tout vu sur France Inter tous les samedis à 10h. Affaires sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire, Adrien Mora, rédaction en chef Franck Ollard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation François Audouin.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Le 26 mai 1995, le Festival de Cannes bat son plein. Ce jour-là, on projette l'un des films en compétition les plus attendus, Underground d'Emir Kusturica. Le réalisateur a sorti le smoking et le nœud pape pour monter les marches. Jusque-là, tout va bien pour cette édition du Festival de Cannes qui compte dans sa sélection La Haine de Mathieu Kassovitz, Kids de Larry Clark, Dead Man de Jim Jarmusch ou encore Le regard d'Ulysse de Théo Angelopoulos qui fait figure de favori. Et l'autre prétendant à cette palme, c'est Kusturica, déjà primé à la surprise générale 10 ans plus tôt, pour Papa est en voyage d'affaires. À l'époque, il était déjà rentré à Sarajevo. Mais en ce 26 mai 95, il est bien présent et il tient à le faire savoir. Il a fait venir avec lui un orchestre tzigane. Les caméras de France 3 sont là pour immortaliser le moment.
Du rarement vu à Cannes, c'est au son d'un groupe tzigane déchaîné et fort peu protocolaire qu'Emir Kusturica a monté les marches il y a une heure. Une arrivée bien dans l'esprit d'un film qui a stupéfié la croisette par sa vitalité. C'est avec cette scène dans le brasier de la guerre yougoslave que s'achèvent ces 3 heures hallucinantes, retraçant un demi-siècle d'histoire. Avec ces images de tournage que l'on pourrait presque confondre avec la réalité qui nous arrive chaque soir de Bosnie par l'intermédiaire de nos petits écrans.
Après la projection, et comme souvent à Cannes, les avis sont partagés. Génial pour certains, long pour d'autres. Il est vrai que la version cannoise dure 3h14. Mais une autre musique commence à se faire entendre. En pleine guerre de Bosnie, Kusturica donnerait le beau rôle aux Serbes. En réalité, l'ambition du réalisateur est immense. Raconter un demi-siècle d'histoire de la Yougoslavie à travers 3 conflits, Seconde Guerre mondiale, Guerre froide et Guerre des Balkans. Le réalisateur met en lumière les mensonges du communisme, mais s'attaque aussi à l'ONU et aux profiteurs de guerre. Bref, il tire dans tous les sens et déclare aux journalistes « Les mécanismes essentiels du monde nous sont cachés, pas seulement en Yougoslavie, mais dans toute l'Europe. Les forces centrifuges qui nous gouvernent sont à la fois anciennes et invisibles. » 2 jours plus tard, Jeanne Moreau, la présidente du jury, annonce la Palme d'Or.
Palme d'Or, Underground d'Emir Kusturica.
Après la récompense, place à la fête et à la polémique. Mais avant de vous raconter tout cela, remontons le temps à la fin des années 60 dans la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, appartenant à la Fédération de Yougoslavie. Un pays où se côtoient catholiques, orthodoxes et musulmans, mais où le seul dieu s'appelle Tito. Kusturica, lui, est le pur produit de la Yougoslavie et de son brassage ethnique. Ses parents sont de culture musulmane, mais non pratiquants, et il a des ancêtres orthodoxes. Le jeune émir a deux passions, le foot et le cinéma. Cela fait d'ailleurs des années qu'il travaille dans une petite salle de quartier pour se faire de l'argent de poche. À l'adolescence, ses parents, effrayés par des fréquentations qu'il juge mauvaises, l'envoient chez une tante, à Prague. Là-bas, Kusturica rejoint la très réputée FAMU, la faculté du cinéma et de la télévision. Il y réalise ses premiers courts-métrages et s'imprègne d'univers différents. Cinéma américain, russe, italien, tchèque et français. À la fin des années 70, il quitte Prague pour rejoindre Belgrade avec dans ses bagages une solide culture et un talent reconnu par ses professeurs. Et il réalise son premier film, Te souviens-tu de Dolibel, qui remporte le Lion d'or de la première œuvre à Venise. Problème, Kusturica est alors en plein service militaire. Ses supérieurs lui accordent tout de même une permission de 24 heures pour se rendre en Italie et récupérer le prix. À seulement 26 ans, Émir fait une entrée remarquée dans le monde du cinéma européen. Mais ce n'est rien à côté de ce qui se passe 4 ans plus tard à Cannes. Le 20 mai 1985, Miloš Forman, cinéaste tchèque diplômé de la même école que Kusturica, annonce la Palme d'Or.
Palme d'Or du Festival International du Film Cannes 85, décerné à l'unanimité à Papa et un voyage d'affaires de Émir Kusturica.
Alors, un homme se dirige vers la scène sous les applaudissements. James Stewart, l'immense star du cinéma, lui tend le trophée. Mais sait-il que ce n'est pas Kusturica qui est là, mais son producteur? Car le réalisateur est déjà de retour à Sarajevo pour aider un ami à poser du parquet. Mais oui, il expliquera plus tard que la production n'avait pas les moyens de lui payer l'hôtel jusqu'à la cérémonie des prix. En même temps, qui aurait pu croire que la Palme d'Or reviendrait à un jeune Yougoslave de 30 ans? Toujours est-il que la légende de Kusturica naît avec ce mythe. Il préfère aider un ami que recevoir les honneurs. Et bien sûr, grâce à cette palme, Hollywood et les producteurs américains lui font des ponts d'or. Mais lui préfère intégrer un groupe de rock, comme une pause. Il fait la rencontre décisive de Goran Bregovic, compositeur qui fera la musique de ses films, notamment du temps des Gitans, un long métrage presque entièrement tourné en Roumanie, La langue tzigane. Il revient à Cannes en 89 et obtient cette fois le prix de la mise en scène. Le 18 novembre de la même année, il est reçu par Thierry Ardisson dans l'émission Lunettes noires pour Nuit blanche, enregistrée au Palace. Et il se confie sur sa nouvelle vie américaine. Le mur de Berlin est tombé et la Yougoslavie va être bouleversée. Kusturica lui parle de sa nouvelle vie aux États-Unis.
Et voici Émir Kusturica, Lion d'or pour Te souviens-tu de Dolibel, Palme d'or pour Papa est en voyage d'affaires et meilleur réalisateur Cannes 89 pour Le temps des Gitans.
Tu vis où maintenant?
Aux États-Unis, à New York.
Tu enseignes?
Oui, j'enseigne la mise en scène.
Pourquoi est-ce que tu ne vis pas en Yougoslavie maintenant que ça change?
Pour les mêmes raisons qui font que les Gitans voyagent sans cesse d'un endroit à un autre. Je trouvais ça un peu ennuyeux de continuer à vivre à Sarajevo. J'ai fait un film à Sarajevo dans mon environnement. Ce que j'ai à faire, ce que j'essaie de faire, c'est trouver un lieu où je puisse trouver un nouveau drame. Par exemple, en arrivant à New York, j'ai découvert immédiatement que je devais faire au Brighton Beach Crime et châtiment de Dostoïevski et transposé de nos jours.
Kusturica enseigne le cinéma à Columbia et livre à ses étudiants son panthéon du cinéma, à savoir L'Atalante de Jean Vigo, Le meilleur équilibre entre le son et l'image, dit-il, La règle du jeu de Jean Renoir, le plus grand chef-d'œuvre de la mise en scène, Andrei Tarkovsky, le visionnaire qui marqua ma jeunesse, Sergio Leone, un truc qui me parle tout de suite, et enfin, Federico Fellini, J'ai tout vu, et plutôt trois fois qu'une. sur une idée de l'un de ses étudiants, Kusturica se lance alors dans un scénario qui traite du rêve américain, Arizona Dream. Il réunit un casting impressionnant, avec Johnny Depp, Jerry Lewis, Faye Dunaway, très chic. Mais au même moment, la guerre ravage son pays. Il fait plusieurs allers-retours, il va mettre ses parents à l'abri au Monténégro. Le 13 juin 92, une équipe d'Antenne 2 est dans Sarajevo, ville assiégée par les Serbes.
Nous découvrons une ville désolée et dangereuse, où tous les bâtiments sont touchés et détruits, les voitures brûlées. Les abris de Sarajevo. La plupart des 300 000 habitants qui vivent encore ici y passent leur nuit. Certains ne sont pas sortis depuis un mois. J'ai vécu la Deuxième Guerre mondiale. C'est encore pire. Ils ont bombardé deux fois ma maison. Elle a brûlé. Et maintenant, je n'ai plus rien.
Pendant ce temps, et abonné aux récompenses, Kusturica rafle l'ours d'argent à Berlin avec son film américain Arizona Dream. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de revenir en Europe pour un projet titanesque, Underground. Débute alors un tournage épique qui va durer 200 jours dans plusieurs pays, dans des studios à Prague et en extérieur à Belgrade, en pleine guerre. Oui, le film est titanesque, foisonnant. L'histoire débute pendant la Seconde Guerre mondiale avec un Belgrade bombardé, des animaux qui s'échappent d'un zoo. Sorte d'opéra et de comédie musicale, l'œuvre se déroule en plusieurs tableaux. Il y a trois personnages principaux dans ce film. Deux amis, Marco et Blackie, et une autre amie, Natalia, avec qui ils vont former à leur manière un trio amoureux. À la fin de la première partie du film, quand la Seconde Guerre mondiale se termine, Marco, l'un des anti-héros, laisse toute une partie des résistants enfermés dans une cave, un underground. Avec son épouse, Natalia, ils forment un couple de menteurs, sorte de Ceausescu. Mais un soir, ils rendent visite à toute l'assemblée pour un mariage célébré en sous-sol. Et c'est l'une des plus belles scènes du film. Le mariage de Johan, fils de Blackie, l'autre héros du film. Johan est né à passer sa vie dans la cave. L'orchestre de cuivre tourne sur un présentoir à gâteau. L'ambiance est à la fête. Les gens jouent au foot. La mariée en robe blanche est en lévitation, comme dans un tableau de Chagall. Natalia, en robe rouge, se saoule et parle de son rêve de devenir actrice à Moscou. Extrait du film, où Blackie, complètement dupe de la supercherie de son ami Marco, le remercie dans un discours.
Grâce à Dieu, ce jour est enfin arrivé. Mes amis, pardonnez-nous la simplicité de ce banquet. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la guerre, hein? Camarades, maintenant, je crois que le moment est venu d'exprimer tous ensemble notre reconnaissance au camarade Marco en lui disant un très grand merci pour toutes ces années passées à veiller sur nous, à nous nourrir, nous protéger et nous soigner. Pour ma part, je te dis merci, mon Marco.
Merci, camarade Marco!
Ensuite, la situation dégénère. Marco se tire une balle dans le pied et un singe, Sonny, entre dans un tank et détruit la cave avec un obus. Pendant que Kusturica tourne Underground, Bernard-Henri Lévy, lui, se rend en Bosnie, alors ravagé par la guerre, pour tourner le documentaire Bosnia. Dans ce film très manichéen, il n'y a pas de doute à avoir, la figure du diable, c'est le Serbe. Extrait et interview de BHL.
Le sniper est un chasseur. Il tient sa proie. Il la serre. Tiens, aurait-il lâché prise? Non. Il l'ajuste au contraire. Il le touche une seconde fois.
Le film prend l'unique parti des victimes. Les Serbes n'y ont pas la parole.
Est-ce que le René dans Nuit et Brouillard a donné la parole aux nazis? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi donner la parole aux Serbes? Vous ne trouvez pas qu'ils l'ont assez, la parole, les Serbes? Cette idée qu'il aurait fallu donner aussi la parole aux Serbes, à égalité peut-être même avec les Bosniaques, elle participe toujours de la même histoire, c'est-à-dire le renvoi dos à dos et la mise sur le même pied des victimes et des bourreaux, et c'est une idée dégueulasse.
Le lendemain, le 15 mai 1994, le film est présenté au Festival de Cannes. Et un an plus tard, nous l'avons dit, Underground est à son tour sur la croisette. Mais ce que nous n'avons pas encore dit, c'est que le 25 mai 1995, les forces serbes bombardent Tuzla. Et c'est un massacre. La guerre s'invite au JT pendant que Emir Kusturica s'apprête à présenter Underground à Cannes.
Ils n'avaient rien à voir avec cette guerre. Ils étaient pour la plupart jeunes, garçons et filles, simplement attablés un soir de printemps à la terrasse d'un café-restaurant. Et il y a tant de victimes qu'il n'y a plus de brancards pour les transporter. Alors les nappes des tables de café feront l'affaire. Nous sommes au centre de Tuzla, cette ville considérée comme zone de sécurité et que l'on disait protégée par l'ONU. Hier soir à Tuzla, l'horreur avait un visage. C'est un obus serbe qui est à l'origine de ce massacre.
Trois jours plus tard, Kusturica remporte sa deuxième Palme d'Or. Mais ce que nous n'avons pas évoqué non plus, c'est la fête qui a suivi. Sur l'une des plages de Cannes, tout est prêt pour accueillir l'équipe du film. Kusturica, ses acteurs et son orchestre arrivent pour fêter cette deuxième palme. Lui qui avait manqué la remise de sa première, compte bien se rattraper. L'alcool coule à flot et un bruit court dans tout Cannes, c'est la fête où il faut être. Alors voilà que de nombreuses personnalités arrivent. Carole Bouquet, Johnny Depp notamment. Et tout à coup, dans la soirée, une bagarre générale éclate. Kusturica n'hésite pas à donner du coup de poing pendant que Johnny Depp se cache sous une table. La police arrive pour calmer les esprits. La situation est chaotique, à la manière justement d'un film de Kusturica. Et la réalité rejoint là la fiction. Mais aucune trace ni image de cette soirée. Ce n'est pas encore l'époque des portables. Seulement quelques blessés légers et pas de scandale. Non, la polémique viendra quelques jours plus tard de Paris.
Chavo, ropistão, chichichaie, chuje, palha na mão. Bobolice, ciao Robobolice, ciao, Shuji e Pagliaro, oppa!
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, aujourd'hui Underground, Kusturica.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
De juin 1995, dans les kiosques, on peut lire une tribune d'un certain Alain Finkielkraut, et en particulier dans Le Monde. Elle est intitulée « L'imposture Kusturica », une attaque en règle qui dit « En récompensant Underground, le jury de Cannes a cru distinguer un créateur à l'imagination foisonnante. En fait, il a honoré un illustrateur servile et tape à l'œil de clichés criminels. Il a porté au nu la version rock, postmoderne, décoiffante, branchée, américanisée et tournée à Belgrade de la propagande serbe la plus radoteuse et la plus mensongère. Le diable lui-même n'aurait pu concevoir un aussi cruel outrage à la Bosnie, ni un épilogue aussi grotesque à la frivolité et à l'incompétence occidentale. Une semaine plus tard, le 9 juin, le professeur d'université Serge Rolgour lui défend le film dans les mêmes colonnes du Monde. Et il dit, une invention esthétique de tous les instants, des images et des plans, dont on peut penser qu'ils resteront dans l'anthologie du cinéma, au même titre que celles et ceux de Fellini, dont Kusturica est désormais l'alter ego. Avec en prime, un humour à proprement parler dévastateur, un rythme étourdissant, des personnages et des acteurs qui font aimer la vie. Le commissaire politique aux questions artistiques, il parle de Finkielkraut, analyse laborieusement non les images du film, mais de longues citations du réalisateur. Pendant qu'à Paris, une bataille médiatique et intellectuelle s'engage pour l'interprétation de l'œuvre de Kusturica, la guerre se poursuit en Bosnie. Mais le plus intéressant, c'est qu'on découvre vite qu'Alain Finkielkraut n'a pas vu le film, ni Bernard-Henri Lévy, qui attaque lui aussi Kusturica dans les colonnes du Point. Et le 12 juillet 1995, sur le terrain, dans la réalité, le chef militaire serbe Ratko Mladic s'attaque à l'enclave de Srebrenica.
Terrorisés, affamés, 30 000 Bosniaques fuient Srebrenica dans le dénuement le plus complet. Ils sont venus se réfugier autour du camp des casques bleus hollandais dans le village de Potocari. Moins d'un quart d'entre eux ont pu y être accueillis, les autres campent sur la route. Mercredi après-midi, les Serbes ont rejoint le village et leur commandant en chef, le général Mladic, a lui-même pris en main leur évacuation.
N'ayez pas peur, rien ne va vous arriver. Les femmes et les enfants d'abord, pas de panique.
Et pour prouver leur bonne foi, les soldats serbes lancent des bonbons à leurs victimes.
Les casques bleus de l'ONU ne font rien pour empêcher ce massacre et cette épuration ethnique. 19 octobre 1995. Dans son émission Le Cercle de minuit, Laura Adler rassemble plusieurs personnalités autour du réalisateur yougoslave pour évoquer son film qui sort dans les salles françaises une semaine plus tard. Serge Imbert est là, Alexandre Alder, Goran Bregovic. Et Laura Adler reprend la parole pour évoquer les éléments les plus polémiques du film.
Excusez-moi, puisque tout le monde dit du bien de vous sur ce plateau, je vais me faire l'avocat du diable, Emir Kusturica. Il y a deux choses quand même qui peuvent choquer les gens, ou en tout cas poser question. Un, c'est ce que vous faites... dire à la Fort-Pronue, on a l'impression de dans votre film que la Fort-Pronue c'est une assemblée de gens qui finalement sont plutôt corrompus, lâchons le mot. Et puis deux, l'utilisation des archives. Est-ce que vous avez manipulé les archives historiques dans votre film?
Listen, the moment I shake your hand, I manipulate.
À partir du moment où je vous serre la main, je manipule l'air.
And if I was given three pictures to choose,
et si on me donne trois images et que je dois en choisir une des trois, eh bien je commence à faire de la manipulation.
The good thing on my manipulation.
Alors ce qu'il y a de bien dans ma manipulation,
my manipulation could make somebody happy or
c'est
somebody
que
angry.
Ma manipulation pourrait rendre certains heureux ou certains malheureux.
On parle d'histoire, people. On parle d'archives historiques.
Moi je ne tue personne.
Les deux grands reproches qu'on fait à Kusturica. 1. Faire passer les casques bleus de la Fort-Pronue pour des corrompus. 2. Son utilisation des archives. Dans une séquence au début du film, il montre les troupes nazies applaudies à leur entrée dans Maribor, en Slovénie, et dans Zagreb, en Croatie. Alors qu'à Belgrade, en Serbie, il n'y a personne dans les rues. Il veut appuyer le fait que les Serbes ont été résistants, contrairement aux Slovènes et aux Croates, ce qui correspond à une réalité historique d'ailleurs. Autre polémique, à la fin du film, alors que nous sommes plongés en pleine zone de guerre, un chef militaire négocie avec un homme en fauteuil roulant qui n'est autre que Marco, ancien apparatchik du parti qui avait enfermé toute une bande dans sa cave. Ici, il profite une nouvelle fois de la guerre en vendant des armes à l'un des belligérants incarné par Emir Kusturica himself. Deux casques bleus assistent à la scène. Et c'est la deuxième fois que Kusturica fait apparaître des soldats de la Fort Pronu dans son film. La première, ceux-ci proposent de faire sortir du pays des personnes en échange d'argent. Extrait.
Je suis venu t'aider indépendamment de nos différents religieux, nationaux et politiques. Et en échange, je ne te demande qu'une chose. Arrête de crier. Sois poli. On trouve toujours un terrain d'entente entre gens civilisés et raisonnables. Je te demande le minimum.
Le minimum. 3 marques par balle.
Le minimum.
$100 par grenade. Tu peux toujours traiter avec les Hongrois, espèce enculé.
Le 26 octobre 1995, Emir Kusturica répond à Finkielkraut dans Le Monde. Il s'étonne qu'on lui laisse écrire sur le film alors qu'il ne l'a pas vu. Et il dit « S'il y a eu une volonté délibérée de me détruire par l'insinuation, l'amalgame et le colportage des rumeurs qui courent à mon sujet, je me propose d'aider vos lecteurs à forger un document beaucoup plus efficace et surtout fondé sur une connaissance du terrain. » Tel que seul un cinéaste qui a vécu l'essentiel de sa vie dans un régime communiste où délation et manipulation étaient devenus un art, en soi, peut l'acquérir. Au fond, Kusturica n'épargne personne dans le film et montre la bassesse des profiteurs de guerre, ainsi que la passivité de l'ONU. Il est vrai que le sort des Bosniaques n'apparaît pas à l'écran, comme s'ils étaient invisibilisés. Dans Bouillon de culture, Bernard Pivot reçoit Bernard-Henri Lévy qui devait faire face à un certain Emir Kusturica. Mais le réalisateur yougoslave a décliné l'invitation. BHL confie qu'il n'a pas encore vu le film, c'est vrai. La polémique empoisonne la sortie et dans Le Masque et la Plume, Jérôme Garcin se désole de cette situation.
Une grande partie de l'intelligentsia parisienne a voulu voir, sans d'ailleurs avoir vu le film, une apologie de la Grande Serbie.
Tu appelles Bernard-Henri Lévy et Alain Finkielkraut une grande partie de l'intelligentsia parisienne.
Ils ne sont pas les seuls et ils ont fait des enfants depuis le Festival de Cannes dans ce domaine-là, d'une part. Et deuxièmement, non, c'est vrai que c'est très dur à la fois de parler de ce film aujourd'hui et de faire l'économie de ce débat qui a quand même empoisonné une bonne partie de nos ondes, sachant que beaucoup de ceux qui l'avaient lancé n'avaient pas vu le film. Alors, je crois que c'est l'essentiel de ma petite colère, c'est qu'on a vu récemment vu à la télévision une heure entière de débat contre Kusturica, en présence de Kusturica, avec, depuis le ministre de la Culture jusqu'à votre ami et confrère Frédéric Mitterrand, personne n'avait vu le film. Je trouve ça un tout petit peu choquant. Bref, revenons au film.
Le lendemain, le 30 octobre, Finkielkraut remet une pièce dans la machine et écrit dans Libération. Kusturica et ses champions se flattent d'être politiquement incorrects. Par ce détournement de sens, ils convertissent la boue en or et un chapelet de manipulation grossière en gerbe de paradoxes éblouissants. À ce compte-là, les calembours orduriers de Le Pen sont le courageux défi au conformisme des bien-pensants et le grand auteur transgressif du XXe siècle n'est plus bataille, mais forissant. Et encore, Finkielkraut n'est pas le seul acteur de cette polémique. Il y a aussi un homme qui connaît bien la Yougoslavie et surtout la Bosnie, Bernard-Henri Lévy. Les deux hommes s'invectivent par presse interposée et se donnent rendez-vous pour une bagarre. À l'occasion de la sortie de son ouvrage, Le Lys et la Cendre, journal d'un écrivain en temps de la guerre de Bosnie, BHL est l'invité de Jean-Luc Kess sur France Inter dans l'émission Synergie.
Exemple Kusturica. D'un côté, c'est un type en effet qui se répandait dans les journaux en disant qu'il voulait me casser la gueule, que si tous les juifs me ressemblaient, il serait antisémite, et autres gracieusetés de ce genre. J'ai vu son film. J'ai dit que je trouvais l'homme détestable. Deux, que je l'attendais où il voulait, quand il voulait, pour en effet l'explication en question. Et quand j'étais un peu plus jeune, je négligeais pas le coup de poing et j'aimais même plutôt bien ça. Je me suis dit que je reprendrais bien du service avec Kusturica. Mais troisièmement, son film est un chef-d'œuvre. C'est un des plus beaux films que j'ai vu depuis très longtemps, et y compris d'ailleurs, et ça c'est le propre des grands artistes, y compris sur cette guerre de Bosnie, sur laquelle le citoyen Kusturica prend des positions que je trouve dégueulasses, et bien bizarrement, comme il est un grand artiste, son film disait des choses géniales. Et ça, c'est le propre des grands écrivains, des grands cinéastes. Leurs œuvres sont plus grandes qu'eux.
Finalement, ce sera une bagarre sur un grand écran entre les deux hommes. Car Bernard Lévy s'essaie au long métrage de fiction. Le titre de son film, Jour et la nuit. Le pitch, un écrivain vieillissant, incarné par un vieux Alain Delon, vit au fin fond du Mexique. Un producteur, campé par Carl Zero, se rend avec son actrice Laure, jouée par Ariel Dombal, pour acheter les droits d'adaptation du premier roman du vieil Alexandre. Résultat, un flop monumental. Le film est un échec commercial et se fait détruire par la critique. Selon les cahiers du cinéma, il s'agit même du plus mauvais film français depuis 1945, rien que ça. Mais dans ce duel à distance, le vrai perdant, c'est Kusturica. Lassé par les polémiques autour de son film, le cinéaste a décidé de tout arrêter. Mais un événement va le faire changer d'avis. Le 4 septembre 1997, il est interviewé par une équipe d'Antenne 2. Les journalistes le suivent en Serbie, sur les rives du Danube, à 100 km de Belgrade, où il tourne un nouveau film, Chat noir, chat blanc. Il a fait appel à des acteurs pour la plupart amateurs et tziganes, comme il l'avait fait 10 ans plus tôt dans Le Temps des Gitans, et il déclare:
je me suis toujours senti proche des Gitans, même avant la disparition de mon pays. Car comme eux, je n'obéis à aucune règle. Je ne les accepte pas. Si vous me demandez quel est mon pays aujourd'hui, je dirais que c'est celui où je choisis de faire un film.
Après Underground, vous aviez annoncé que vous quittiez le cinéma. Pourquoi avez-vous changé d'avis ?
J'ai changé d'avis en voyant les dommages que Bernard-Henri Lévy pouvait causer au monde du cinéma. Je me suis dit, tu dois y retourner, tu ne peux pas laisser faire ça.
Avec un petit sourire malicieux, Emir Kusturica envoie une flèche à BHL et tourne la page Underground, qui 30 ans plus tard apparaît comme un film nostalgique de la Yougoslavie, à l'image de la scène de fin du film où Jovan déclare: avec douleur, avec tristesse et avec joie, nous nous souviendrons de notre pays quand nous raconterons à nos enfants des histoires qui commencent comme des contes de fées. Il était une fois un pays. Le film se termine avec ce carton. Cette histoire n'a pas de fin. Non, l'histoire de Kusturica avec le Festival de Cannes n'a pas de fin. Celui qui fait partie du cercle très fermé des réalisateurs à avoir obtenu 2 palmes d'or et qui a également reçu le prix de la mise en scène revient en 2005 en tant que président du jury. Et Kusturica n'a pas fini de faire parler de lui. Mais le Fellini des Balkans retrouvera-t-il le génie du temps des Gitans d'Underground ?
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Underground, Emir Kusturica, dont nous parlons avec un invité qui est chez lui, Laurent Delmas. Bonjour.
Bonjour Fabrice.
Critique de cinéma et coproducteur de l'émission de cinéma de France Inter, qui s'appelle On aura tout vu, c'est tous les samedis à 10h. D'ailleurs, vous allez vous intéresser à la musique samedi, non ? C'est ça ?
Oui, on recevra Éric de Marsan, le très grand compositeur qui a travaillé notamment avec Jean-Pierre Melville et Jean-Pierre Mocky.
Bien. Alors, revenons à nos moutons. Quand il arrive à Cannes, en 95, Kusturica est déjà bien connu. Hein. Il a remporté la Palme d'Or 10 ans plus tôt, avec Papa est en voyage d'affaires, et le prix de la mise en scène en 89, avec Le Temps des Gitans. Est-ce que c'est le réalisateur qui a typiquement le profil cannois ?
Est-ce qu'il y a un profil cannois ? Je ne sais pas. En partie, oui, parce que il vient d'une cinématographie un peu atypique, spécifique, très localisée géographiquement. On voit bien que les réalisateurs britanniques, italiens, coréens, voilà, dès lors qu'on n'est ni à Hollywood, ni en France, faut bien le dire, à Cannes, on a plus de chance. Voilà, bon, c'est comme ça. Mais en même temps, c'est vrai que Cannes, c'est une formidable fenêtre ouverte sur le monde du cinéma. Donc, il y a la jeunesse aussi qui peut compter. C'est-à-dire que Cannes, certes, aime bien les sanctifier les vieux routards, mais découvrir aussi des jeunes pousses, Cannes adore. Donc, effectivement, Emir Kusturica avait un certain nombre de fées qui s'étaient penchées sur son berceau cannois.
Alors, avant de parler d'Underground, je voudrais qu'on s'arrête une minute sur Arizona Dream. Quelle place tient ce film dans sa filmographie ?
Ben, c'est très particulier, en effet. Enfin, c'est à la fois très particulier, et puis ça s'insère parfaitement dans sa filmo, parce que c'est évidemment un film, vous l'avez très bien dit, qui fait notamment appel à des stars américaines comme Faye Dunaway ou Jerry Lewis. C'est quand même très étonnant de se dire que Jerry Lewis participe à un film d'Emir Kusturica, mais c'est ça qui marche, avec une musique incroyable. Le tube chanté par Iggy Pop, et au fond c'est sur le rêve américain, mais on voit bien que le rêve ça traverse toute la filmographie de Kusturica dans sa dimension nostalgique. On ne comprend rien à Kusturica si on ne comprend pas qu'il a une nostalgie de son pays perdu, qui est à la base de toutes ses actions, de toutes ses réflexions, de tous ses films, y compris des impasses dans lesquelles il va. Mais il faut impérativement tenir compte de ça. Emir Kusturica, c'est un petit garçon qui a perdu son pays d'origine. Et ça marque une vie, une carrière, une filmographie.
Je vous félicite de prononcer Kusturica. On a entendu tout, on a entendu Kusturica.
Oui, Kusturica.
C'est pas grave, mais au moment où la guerre en Bosnie faisait rage, à la rédaction de France Inter, on nous disait bien, on dit Kusturica.
On le
voilà.
Dit.
Bon. Ouais. Alors dites-moi, c'est un bon film, évidemment, c'est un film ambitieux. Il est long quand même, non ?
Underground ?
Ouais.
Oh, il fait 3h15. Il y a une version, mais alors là, je ne vais pas en parler. Je ne vais pas faire comme certains. On y reviendra. je n'ai pas vu la version longue de plus de 5 heures. Donc, je n'en parlerai pas. Mais vous savez, c'est quand même un film sur le temps long. C'est-à-dire, c'est, comme vous le disiez très bien,
c'est
trois guerres. Donc, c'est une traversée d'un siècle presque, ou au moins d'un grand demi-siècle. Moi, je ne suis pas... Ça ne m'embête pas, le temps long. En littérature, on accepte bien des volumes. Et des volumes de
c'est
la Pléiade. Hein. Bon, Alexandre Dumas, c'est pas court. Hein. Moi, ça ne me dérange pas dès lors qu'il y a un propos, dès lors qu'il y a la matière pour raconter des histoires. Or, c'est un formidable raconteur d'histoires, c'est un formidable peintre de personnages fantasques. Donc, après tout, la longueur, je pense au contraire qu'elle fait partie du propos de Kusturica.
Qu'est-ce que ça vous inspire, les déclarations de BHLF Finkielkraut à propos d'un film qu'ils n'ont pas vu ? Quand même extraordinaire.
Ben, ça, vous savez, ça me fait penser à la phrase tout à fait mutine et malicieuse d'un de nos confrères, hélas disparu, Michel Bouju, qui était un grand critique de cinéma. Il avait notamment exercé à Charlie Hebdo, et il avait l'habitude de dire « Je ne vais pas voir les films dont je parle, ça pourrait m'influencer. » Seulement, chez lui, c'était une blague.
Ben oui.
Et c'est une blague que je reprends souvent à mon compte parce que je l'adore. Le problème, c'est que si des gens aussi sérieux que Finkielkraut et BHL reprennent cette phrase à leur compte, là, ça devient plus problématique. Et je souscris à la colère de notre confrère Jérôme Garcin à l'époque.
Ben oui.
C'est pas possible de faire tenir un raisonnement intellectuel sur un objet qu'on n'a pas vu. Finkielkraut a écrit un livre, par ailleurs très intéressant, qui s'appelle « La défaite de la pensée », qui a marqué son grand retour sur la scène idéologique française, eh bien là, parler d'un film qu'on n'a pas vu, c'est une énorme défaite de la pensée.
Bien sûr. Alors, concernant le film en lui-même, ses décors, ses lieux de tournage et les figurants, ça vous a frappé, cet ensemble-là est frappant.
Mais oui, bien sûr, c'est ce qui fait, et finalement, et heureusement, BHL finit par le dire, c'est un très, très, très grand film. Ça, au moins, on peut donner acte à BHL de le dire, Finkielkraut ne l'a pas dit. Au moins, BHL dit ça, et il a raison, parce que, effectivement, les conditions de production, le fait que ça s'est fait sur plus d'une année, avec des gens extrêmement divers, avec une très, très grande liberté, alors on a parlé à raison à la fois d'un tableau de Chagall et de films de Fellini. C'est vrai que ça brasse tout ça dans une esthétique de la profusion où on parle beaucoup, on rit beaucoup, on mange beaucoup, on fait beaucoup d'autres choses aussi. Je ne vais pas aller plus loin sur les pratiques humaines, mais voilà, c'est ça qui est au centre des choses. C'est quand même une immense cavalcade, et c'est pour ça qu'il faut effectivement décorréler l'homme de l'œuvre, même si on n'aime pas cette expression en ce moment. Mais je crois que là, vraiment, ça s'impose absolument.
Et que dire des acteurs ?
Mais ils sont tous formidables, parce que je pense qu'ils jouent. Vous savez, en plus, c'est quelque chose de merveilleux de faire un film dans le film, parce que c'est ça Underground. Il y a un film dans le film avec le mythe de la caverne. C'est des gens qui vont vivre dans une caverne, c'est-à-dire dans le métro, dans le sous-sol pendant des années, en croyant que la vie continue au-dessus d'eux, alors que c'est une autre vie. Ben c'est exactement platonicien, et tous les acteurs sont au service à la fois de la fable, du propos politique, mais au sens très très large du terme, pas du tout partisan réellement, et aussi d'un point de vue humaniste qui effectivement le rapproche du cinéma de Fellini, parce que c'est vrai que l'accointance avec Fellini, elle est évidente. On n'a jamais, jamais, jamais demandé à Fellini d'être un idéologue de l'histoire italienne, et on a bien fait de ne pas le lui demander, et on aurait mieux fait de se comporter comme ça avec Kusturica. Certes, il se tire quelques balles dans le pied lui-même avec des déclarations, mais en dehors du film, le film lui-même et ses films et d'autres films, parce qu'on pourrait parler du film suivant comme La vie est un miracle, un film de 2004, un film plus tardif que Underground, mais qui reprend un certain nombre de cette tendance félinienne, si je puis dire.
Oui, le Fellini de balcon, quelquefois, les formules des journalistes
parfois
sont précises.
Oui, hein, oui, absolument.
France Inter. Sensible.
Laurent Delmas, est-ce qu'à votre avis c'est un mauvais procès qu'on lui fait à Kusturica en lui reprochant avec Underground de faire la propagande de Milosevic ?
Je crois qu'on peut vraiment pas dire les choses comme ça. C'est-à-dire le film ne le dit à aucun moment, le film ne montre pas Milosevic. Enfin, c'est donc vraiment faire un mauvais procès, parce que c'est le replacer sur un terrain sur lequel le film n'est pas. Le film est clairement sur de la fiction, c'est-à-dire c'est une œuvre de fiction, certes enserrée dans une gangue historique qui est là, mais une fois encore, on sait bien, par exemple, que en France, on a toujours favoriser le camp serbe au motif que, effectivement, le camp serbe était un camp de résistants face à deux camps, les bosniaques et les croates, qui étaient plutôt dans le camp de la collaboration et du nazisme.
Ah, les croates surtout avec Ante Pavelić.
Exactement. Et voilà. Donc, si vous voulez, ce contexte-là, on peut pas l'enlever. Et puis, au fond, ce que dit le film, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il décrit à la fois une complexité énorme. D'ailleurs, nous, en France, on a du mal à saisir toutes les subtilités dont parle le film, hein, en termes ethniques notamment. Je pense qu'on passe à côté d'un certain nombre de choses, mais c'est comme ça. Il y a la complexité, il y a un discours assez équivalent sur les horreurs de la guerre. Or, les horreurs de la guerre, elles sont partagées, elles sont évidemment de tous les côtés. Et quant aux accusations, entre guillemets, sur l'ONU et la Forprenu, je crois qu'elles sont quand même un peu partagées. C'est-à-dire qu'il y avait du côté occidental à la fois un mélange de bonne conscience, de théorie de « allons-y mais ne faisons rien », enfin voilà. Je crois que maintenant, avec le recul, on peut juger de ce qu'a été cette guerre, d'abord, mais ça ne nous appartient pas, en tout cas pas à moi, critique de cinéma, mais ce recul permet vraiment d'avoir sur le film de Kusturica un vrai recul, et de le mettre à sa place dans le cinéma, et certainement pas dans l'analyse historique, politique, dans le débat et dans la polémique.
Et à l'époque, ça a parasité le film, peut-être ?
Totalement, ça a totalement parasité le film, et avec une injustice dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire comment paralyser un film qu'on n'a pas vu. C'est quand même, ça relève vraiment... Mais oui, enfin, c'est moi, je trouve ça, pour moi, critique de cinéma, c'est extrêmement
choquant. On risque d'être influencé si on voit le film, hein, on ne peut pas le voir.
oui, c'est ça. Non, c'était vraiment pas raisonnable. Cette polémique n'était pas raisonnable. Je pense qu'on aurait pu tout à fait... s'en abstraire. Et d'ailleurs, heureusement, quelqu'un comme Serge Regourd, que vous avez cité, le professeur d'université, a dit tout de suite, a mis des contre-feux en disant combien ce film était cinématographiquement intéressant, et c'était là-dessus, évidemment, qu'il fallait en parler, là-dessus qu'il fallait le juger, après que BHL et Finkielkraut aient un avis sur le conflit, ça tant mieux, mais pas sur le film, et pas comme ça.
Alors, quelle carrière après Underground ?
Ben, c'est sûr que c'est compliqué pour Kusturica, qui a lui-même, d'ailleurs, une fois de plus, qui n'a pas toujours été d'un grand auxiliaire de sa propre carrière, en faisant des pas en avant, des pas en arrière, en disant « j'arrête le cinéma », et puis « Malice suprême »,« ah, je vois le film de BHL, surtout je reprends pour sauver le soldat cinéma ». Bon, ça c'est assez drôle. Et effectivement, il a fait en 2004, je le disais, ce film « La vie est un miracle », qui est un très très beau film, qui est un film un peu mal considéré, mais bon, parce qu'il y a eu toutes ces affaires, mais qui est un très beau film, parce que justement, il creuse, il continue à creuser. Le seul filon où vraiment Kusturica est un artiste majeur, c'est le filon d'une sorte de nostalgie des origines.
Toujours.
Mais bien sûr, la Yougoslavie d'avant. Alors certes, il a fait un des films très anticommunistes, qui est Papa est en voyage d'affaires. Il l'a fait, donc il a son brevet d'anticommunisme, je dirais, idéologique, il l'a donné. C'est ça, d'ailleurs, qui aurait dû alerter Finkielkraut et BHL. Parce que Kusturica a dit, si j'avais su que ce film était si mis en avant par les anticommunistes, je ne l'aurais pas fait, finalement. Parce qu'il est là-dedans, c'est-à-dire que ce qu'il regrette, c'est cette Yougoslavie. Or, cette Yougoslavie, elle était socialiste et pas communiste, elle était titiste, alors c'est un régime...
Non-aligné.
Exactement, non-aligné, en dehors du stalinisme.
Le titisme, c'est ça.
Mais c'est ça, donc c'est... On voit, et en même temps, on va pas se faire... pas se raconter d'histoire, c'est certainement pas un régime paradisiaque, et je ne pense pas que Kusturica... le dirait, mais néanmoins, on ne peut rien faire contre la nostalgie, on ne peut rien faire contre l'idée que j'habitais un pays où les nations étaient réunies, où des nations, des peuples étaient réunis, et quelque part, ça marchait, on le sait bien. Bon, le mur de Berlin est tombé, la situation a été autre, on comprend que des gens puissent être dans une vraie nostalgie, de ce point de vue-là. Et Kusturica l'est resté.
Et c'est la nostalgie, on retiendra ce mot-clé, Laurent Delmas. Merci infiniment.
Merci.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Underground, Kusturica, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Gaspard Guy Bourget.